Bonjour à toutes, bonjour à tous. La politique est-elle un métier? Et si oui, à quelle école faut-il aller pour l'apprendre? L'école du savoir ou l'école de l'expérience? Ce métier est-il davantage du côté de l'art ou du savoir-faire? Alors avant d'aller en Chine, dans la Chine du 3e siècle avant Jésus-Christ, durant la période troublée des royaumes combattants en compagnie de Han Fei, retrouvons le roi Louis XIV, qui discute avec ses sujets autour d'une table de billard. Mais oui, il est au milieu de ses sujets, il joue avec eux, bien sûr, il gagne. Écoutez comment on le flatte, comment on le vénère, comment on lui parle. Écoutez comment il établit son pouvoir par les mots autant que par les gestes.
Approchons-nous du billard du roi. Sa Majesté gagne, et comme toujours quand elle gagne, elle est de belle humeur. Et comme toujours quand elle est de belle humeur, il convient de lui faire sa cour.
Les gens de petite extraction servent bien, messieurs, et ont beaucoup de probité, de talent.
Oh, c'est un prodige.
Vous voilà battu. Tiens, mon ami, débarrasse-moi de ces gants.
Sire, j'ai une requête à vous adresser.
Que veux-tu?
Si votre majesté daignait recommander à monsieur le premier président un procès que j'ai contre mon beau-père... Sire, vous n'avez qu'à dire une parole.
Si tu étais à la place de ton beau-père, mon ami, serais-tu bien aise que je la dise, cette parole? Oh, monsieur le maréchal de Gramont, vous avez le goût bon. Lisez, je vous prie, ce petit madrigal et dites-moi si vous en avez jamais vu un si impertinent. Depuis qu'on sait que j'aime les vers, on m'en apporte de toutes les façons.
Voyons cela. Chimène, le soleil vous dore et vous adore. Votre Majesté juge divinement. Voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal.
Celui qui l'a fait est-il bien sot?
Le moyen de lui donner un autre nom, sire.
Je suis ravi que vous m'ayez parlé si bonnement, monsieur le maréchal. C'est moi qui l'ai fait.
Bonjour Alexis Lavis.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Vous êtes spécialiste de philosophie comparée entre l'Orient et l'Occident. Vous enseignez à l'université de Rouen et vous êtes l'auteur d'une traduction de l'art de gouverner de Han Feizhe, petit texte très utile à quiconque exerce le pouvoir et dans lequel on y apprend qu'un gouvernant, pour garder le pouvoir, eh bien, ne doit surtout pas jouer au billard avec sa cour. Au contraire, nous dit-il, pour bien régner, on doit rester caché.
Oui. L'extrait de cette parodie de la cour de Louis XIV est...
C'était un extrait d'un film radiophonique, La cour de marbre, le roi de Versailles, qui date de 51, figurez-vous, diffusé sur France Culture, réalisé par Gérard Herzog en 51.
Han Fei y verrait un malentendu quant à ce qu'on appellerait un roi soleil, parce que c'est une expression ambiguë, parce que le roi soleil, est-ce celui que tout le monde voit ou est-ce celui que tout éclaire?
Enfin, qui éclaire tout.
Or, Han Fei dirait, s'il y a un roi et qu'il est solaire, c'est à condition qu'il éclaire tout. Et donc que lui-même soit dans l'ombre, d'une certaine manière. Alors que là, effectivement, il y a un jeu dangereux que joue Louis XIV entre le fait d'être en vue et le fait de révéler. Et l'extrait est intéressant parce que on voit que Louis XIV est tout de même sans naïveté. Et donc, d'une certaine manière, il arrive à déjouer habilement les flatteries. Ce que Han Fei veut faire aussi. Le prince, c'est celui d'abord qui sait déjouer la flatterie, les mensonges, bref, toutes les tentatives de manipulation qui pullulent autour de lui. Toutefois, Han Fei dirait à Louis XIV, « Vous jouez un jeu dangereux, monseigneur. » Même si vous n'êtes pas naïf, vous jouez un jeu dangereux.
Qu'est-ce qui est dangereux de communiquer autant avec ses propres...
De se montrer autant.
Sujet. De se montrer, ouais.
Oui, et il faudrait faire preuve de prudence, et la prudence élémentaire voudrait que le prince disparaisse presque, soit tapis dans un mur d'ombre, derrière lequel il voit tout le monde, et lui n'est jamais véritablement compris ni vu. Une présence qui est d'autant plus forte qu'elle est presque absence.
Alors Han Feizhe, c'est son nom entier? Han Fei, Han Feizhe.
Han Fei, c'est son nom, ouais. Ça veut dire maître. Han, c'est son nom de famille, et Fei, c'est son petit prénom.
Donc on va l'appeler Han Fei.
Tout à fait.
Han Fei, un Machiavel de la période du royaume des combattants de Chine, on peut dire. Un troisième siècle avant Jésus-Christ, et il donne des conseils pour bien gouverner.
Est-ce que c'est un Machiavel? Je dirais non. Pour une raison très très essentielle, là on parle de métier. C'est intéressant, vous aviez dit que la définition de métier était au fond quelque chose d'un peu flou. Or, Han Fei serait totalement contre, absolument contre, l'idée que le gouvernant, le souverain, soit une question de métier, surtout pas. Et pour une raison différente de ce qu'on pourrait penser. Mm-hmm. Quand on dit, nous, notamment, voilà, que la politique n'est pas un métier. C'est pas du tout dans ce sens-là que Han Fei l'entend. Et Machiavel, lui, au contraire, dans son prince, donne des trucs. Donc du coup, fait du métier, enfin fait du souverain, quelqu'un qui doit avoir un art et un métier. Pourquoi Han Fei dit que le prince ne doit surtout pas être un homme de métier? Parce que, on va faire comme fait Han Fei, c'est-à-dire on va écouter les mots. Ben, métier, ça vient de ministère. Et ministère, ça veut dire qui s'occupe des petites choses, minus en latin. Or, précisément, ce que doit apprendre le souverain, c'est d'exercer un magistère, c'est-à-dire à exercer ce qui est grand. Comme le fait le magistrat chez nous, c'est-à-dire le magistrat, il ne fait pas les choses. Au fond, il fait presque rien. Il tranche, il juge, il regarde, il écoute. Mais il n'est pas quelqu'un qui s'affaire dans les petites choses. Donc il n'a pas besoin de cette intelligence de ruse. Il n'a pas besoin de cette intelligence, on pourrait dire pratique, de cette métisse, comme on disait pour les Grecs, cette intelligence.
Cette ruse.
Cette ruse fabricatrice, voilà. Cet art des tours et des détours. Pas du tout. Il est en dehors de ça. Il doit tenir une place au sommet dans laquelle il ne doit pas rentrer dans les petites intrigues. Et donc, il doit développer une sagesse et pas une intelligence. L'intelligence, c'est le fait des ministres. La sagesse, c'est le fait du magistrat, c'est-à-dire du souverain.
On trouve pourtant dans cet art de gouverner, c'est le titre du texte que vous avez traduit, hein, Alexis Lavis de Han Feizhe, sinon un manuel, du moins quasiment des conseils, des choses à suivre et à ne pas faire pour bien gouverner.
Tout à fait. Au fond, il y a une philosophie d'une certaine manière tacite chez Han Fei, qui est une forme de taoïsme, de laisser faire. Mais c'est un texte chinois et donc écrit dans une perspective de conseil au prince, pour savoir être prince, tout bêtement. Or, la grande tentation, c'est précisément de se mêler des choses. Et un prince ne se mêle de rien, c'est pour ça qu'il est souverain.
C'est ce que Han Fei écrit dans le chapitre, on en a fait un chapitre de l'art de gouverner qui s'appelle « Conserver le pouvoir », car une chose est d'accéder au pouvoir, une autre est de le maintenir. Écoutez ce texte.
Le pouvoir doit rester caché. Il s'enracine dans le non-agir. Tous s'affairent aux quatre coins du monde, mais l'important est de se maintenir au centre. L'homme saint se tient auprès de la source, tandis que les quatre coins du monde viennent à lui. Il demeure sans attente, la vacance au cœur, et obtient naturellement ce dont il a besoin. Quand il a trouvé la place qui lui revient en propre, le sage, reposé dans les ténèbres, contemple la lumière. Les êtres prennent place à sa droite et à sa gauche, puis, une fois ces derniers convenablement installés, il ouvre les portes et fait face au monde. Il ne change rien, n'altère rien, mais agit grâce aux deux leviers que sont la récompense et le châtiment. C'est de cette façon qu'il œuvre, jamais autrement, toujours ainsi. Voilà ce qu'on appelle marcher conformément à l'ordre des choses. S'il fait part de ses dégoûts et attirances, ses sujets cherchent à le manipuler. S'il se montre indulgent et peu enclin à sacrifier des vies lorsqu'il le faut, ses sujets abusent de sa compassion. Il existe une hiérarchie naturelle entre le haut et le bas, entre le supérieur et l'inférieur. Lorsque les sujets et les princes intervertissent leur place et rôle, le pays sombre dans le chaos.
Pour bien gouverner, le prince doit rester caché et surtout être à sa place, Alexis Lavis. On est dans une société, hein, je rappelle, donc il écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, où Les choses sont extrêmement structurées. Chaque membre de la société a une place. C'est une place qui est assignée en fonction d'une hiérarchie clairement établie. Et les choses sont bien, on laisse les choses être, c'est-à-dire on respecte cette place qui nous est attribuée et surtout on n'essaye pas d'aller ailleurs. Or pour le prince, eh bien, c'est à la fois au-dessus des autres et en même temps en dehors de la lumière.
Oui, c'est une. On pourrait dire, nous vivons dans ce qu'on appelle un monde traditionnel, c'est-à-dire un monde hiérarchique, un monde organisé et vertical. Et donc, on pourrait penser effectivement tout de suite à une forme de despotisme, à un rapport à forcené à la domination. C'est vrai en grande partie, évidemment. Et c'est contre ça d'ailleurs qu'il y a eu révolution chez nous. C'est pas un hasard. Mais néanmoins, ça n'est pas une société si absurde que ça, sinon elle n'aurait pas duré aussi longtemps. Et ce qui veut dire que si c'est une société d'ordre, de logique et de verticalité, ça signifie que chaque place a sa raison d'être et qu'elle demande une habituation, elle demande presque une initiation, elle demande une manière d'habiter, on pourrait dire, sa situation. Et ce que fait ce texte de Han Fei, c'est de décrire comment on habite cette situation très étrange qui est d'être au-dessus. Et être au-dessus, ça n'est pas du tout dominer d'une certaine manière, au sens bête du terme. C'est-à-dire, ça n'est pas forcément exercer un pouvoir directement sur quelqu'un ou sur quelques autres. Le plus étrange pour Han Fei, c'est que être au-dessus, c'est disparaître. Quelque chose qui, pour nous, est très étrange. Mmh. Pour nous, être au-dessus, c'est être en vue. Et là, c'est non, surtout pas. Jamais être en vue. Disparaître de telle sorte que les autres se montrent. Être au-dessus exige une qualité que Han Fei, à la toute fin du livre, décrit comme étant l'art d'écouter absolument, jusqu'au bout. Et donc, pour écouter, il faut se mettre en retrait. Pour écouter, il faut être sûr que la personne puisse dire tout ce qu'elle a à dire, malgré elle. Et il y a tout donc des protocoles, des rites, des artifices pour mettre à distance le prince, mais que cette mise à distance soit une manière d'intensifier sa présence.
Donc c'est d'abord celui qui écoute et celui qui regarde, non pas celui qui parle et qui se montre.
Et c'est ça le magistère, oui. C'est comme le juge. Le juge doit être protégé d'une certaine manière et doit se protéger lui-même. Je pense que les magistrats savent ça. Et il ne doit pas se mêler des choses, il doit entendre, et entendre à un niveau qu'on a peine à entendre, nous, justement, qui demande une forme d'éthique personnelle, d'assaise personnelle, entendre et trancher. Voilà, c'est les deux.
Et trancher. Trancher. Entendre, bah oui, et trancher. Sûr. C'est décidé, en fait.
Eh oui, mais utilisons le mot trancher, car l'exercice du magistère ne va pas sans une forme de violence. C'est-à-dire, il faut être implacable dans ses édits.
Ce que disait le texte qu'on a entendu, hein, il agit grâce aux deux leviers que sont la récompense et le châtiment.
Oui, et quand on lit un peu Han Fei, on voit que le châtiment, c'est pas quelque chose de... Il plaisante pas. C'est-à-dire que j'ai recensé le type de châtiment duquel il parle. Il y a décapitation, amputation du pied, démembrement... Donc il ne s'agit pas d'une amende, il s'agit de vous le payer de votre chair. Il dit la grande difficulté, c'est d'arriver à exiger la mise à mort, par exemple, de quelqu'un, et notamment des proches.
Et donc il punit qui ? Ceux qui ne respectent pas l'ordre établi ?
Alors, pour vous le dire clairement, je vais vous raconter juste une petite histoire que donne Han Fei qui éclaire parfaitement la question. Il parle d'un souverain qui s'appelle Zhao, qui vivait dans le royaume de naissance de Han Fei, qui était le pays de Han. Et le roi Zhao avait passé une soirée bien arrosée, comme on fait beaucoup en Chine encore maintenant. Et il s'était endormi ivre-mort. Et durant la nuit, le chargé, celui qui était responsable de protéger la couronne, les joyaux souverains de le voit grelotter. Donc il s'inquiète pour lui et il lui met un manteau sur le dos pour qu'il n'attrape pas froid. Le lendemain matin, le prince Zhao se réveille et voit qu'il est couvert d'un manteau et il demande qui a eu l'aimabilité de le couvrir pendant la nuit. Et alors, frétillant un peu de la queue comme on dit, le responsable de la couronne dit « c'est moi maître, je vous ai vu grelotter, j'ai eu peur que vous preniez froid, je me suis permis de vous mettre un manteau sur les épaules. Qu'a fait Zhao ? Il n'a pas du tout remercié son serviteur, il l'a fait punir gravement, et il a fait aussi punir le responsable des manteaux. Pourquoi ? Parce que le responsable des manteaux avait été en dessous de son devoir, et que le responsable de la couronne avait été au-dessus de son devoir. Voilà, c'est ça, punir.
Donc l'ordre est plus important que la morale elle-même, en fait.
Il n'y a pas de morale, cher Hanfei. Il y a des règles qui doivent être respectées, et dès lors qu'il y a le moindre écart, par le dessus, par excès de zèle, ou par en dessous, par paresse, ou par négligence, le couperet tombe.
Ça, c'est l'héritage du confucianisme ?
Pas du tout. Non. D'ailleurs, il y a une phrase dans le Hanfei. Alors, c'est un peu compliqué, parce que Hanfei a été éduqué par un confucéen, qui était Sun Tzu, quand il était à l'académie de Zixia. Mais Sun Tzu est un confucéen très particulier, parce que c'est un confucéen passionné de la règle.
Mais voilà, c'est pour ça que je faisais référence au confucianisme, c'est pour le dire en deux mots, quoi, les confucéens sont ceux qui font respecter les rites avant toute chose.
C'est un peu plus compliqué.
Oui, j'imagine bien.
Parce qu'ils les font respecter à partir d'une idée ou d'un principe qui serait le principe d'humanité. De grands principes moraux, si vous voulez. Or, Hanfei, pour Hanfei, il n'existe pas de tels principes. On ne gouverne pas avec des principes, on gouverne avec des situations, on gouverne avec des êtres réels. Et donc il dit, par exemple, gouverner, c'est ne pas agir au nom de principes. Gouverner, c'est savoir ce qui meut les hommes, savoir pourquoi ils agissent. Donc il y a quand même un côté réel politique qui n'est pas un ministère pour autant. Mais il faut avoir une entente des choses comme elles sont, et pas des choses comme elles devraient être. Donc en ce sens-là, il n'est pas du tout confucéen. Mais il l'est au sens où, comme tout chinois, on pourrait dire de l'époque, et même encore d'une certaine manière maintenant, la règle c'est la règle, le devoir c'est le devoir. Il faut habiter la place qui nous est assignée. Et là où Hanfei, d'une certaine manière, est beaucoup plus progressiste qu'on pourrait le croire, c'est que la place qui vous est assignée ne peut être condition de votre naissance, de la qualité de vos parents, de votre fortune personnelle. Non, elle est uniquement le fait de votre mérite propre. Donc, il est méritocrate jusqu'au bout des ongles.
Et il est dit aussi que, comme le Tao, cette fois-ci, le souverain doit être immobile, ça on a un peu compris pourquoi, et vide. Non seulement il est caché, mais il est vide.
Eh oui, si vous voulez écouter, il ne faut pas avoir d'idées préconçues. C'est ça, vide. C'est-à-dire sans particularité, sans préférence, sans inclination, sans a priori. Mais sans a priori, vraiment. C'est-à-dire il doit laisser ses ministres aller jusqu'au bout. Et il le dit d'ailleurs assez de façon pertinente relativement à l'expérience qu'on peut faire quand on cherche à écouter. Il dit, on écoute souvent, mais on n'écoute jamais jusqu'au bout. Or, il dit, c'est lorsqu'on écoute jusqu'au bout qu'on commence à apprendre des choses. Et c'est ce jusqu'au bout qui est intéressant, parce qu'il ne le qualifie pas. En quoi ça consiste, écouter jusqu'au bout ? Eh bien, ça consiste justement à abandonner le moment où l'on ramène à ce que l'on connaît déjà, à ce que l'on attend déjà, ce qui n'est peut-être pas de l'ordre du connu pour nous. Et donc, il faut vraiment écouter jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de soi.
Donc vide, c'est vide de toute forme de connaissance, de préjugés, et même presque de personnalité. On doit déterminer par aucune chose.
De goût. Ah oui, c'est une.
C'est une objectivité totale.
C'est une objectivité totale. Alors, bon, le mot objectivité est peut-être pas des plus heureux. Non, c'est une vacance totale. C'est-à-dire, et vacance, c'est certes l'absence, mais c'est aussi la liberté, comme un lieu vacant.
Mais alors, avec quoi gouverne-t-on dans ce cas ? Comment décide-t-on si on n'a plus aucun critère, cette espèce de vide de toute forme de connaissance, comment décide-t-on,
Pas de connaissance, non, pas de connaissance, de préjugés, d'attentes et de goûts personnels, de petites préférences. Vraiment, on pourrait dire qu'il faut être vide de subjectivité au sens classique du terme, c'est-à-dire au sens des préférences personnelles, de ce qui est déterminé par notre histoire propre qui ne concerne que nous. Il a bien compris ce qu'était la chose publique. L'espace de la communauté, c'est l'espace de la communauté. Il sépare très bien le privé du public, sauf que le roi, il n'y a plus de privé. C'est un être purement public. Il n'est que public. En un sens, il rejoint...
Public mais caché, c'est ça qui est intéressant.
Ah ben, comme l'est l'espace public. L'espace public, il est omniprésent, mais vous ne le voyez jamais. Ce que vous voyez, c'est des particularités. Et pourtant, La Respublica et les marques de la Respublica, on les voit. Un banc public. La dimension publique du banc, elle est où? Est-ce qu'on la peut la voir? Non, on voit un banc individuel qui pourrait appartenir à XY. D'ailleurs, s'il appartenait à un particulier, on le saurait. Il y aurait une marque. Il y aurait une signature. Il y aurait une délimitation. Non. Comment sait-on que le banc est public? Il est investi d'une autorité omniprésente et pourtant insaisissable. Eh bien, d'une certaine manière, si on me permet la métaphore, le prince doit être comme un banc public.
Alors, on va se plonger dans cette période qui nous occupe, hein, les royaumes combattants, avec un extrait du film Hero qui était réalisé par Zhang Yimou, sorti en 2002. On a le souverain. Alors, Jin, on prononce
Xin.
Xin, ce qui donnera Chine.
Tout à fait.
Pas voilà. Qui cherche à devenir empereur de Chine, donc en réunissant les 7 différents royaumes. Il est surprotégé, personne ne peut l'approcher à moins de 100 pas. Mais un jour, pour récompenser un inconnu qui a éliminé 3 mercenaires, il l'autorise à s'approcher un peu plus. Et c'est là où tout va basculer. Écoutez l'extrait.
Chang-kong, fei-xue, chan-jian. Ces 3 zhao-guo-ci-ke, 10 年来谋刺. 令我王一日不得安睡.
L'âme brisée, flocons de neige et ciel étoilé. Les 3 mercenaires de Zhao ont tenté de tuer sa majesté à maintes reprises. Ces assassins, aussi surprenants soient-ils, ont été tous 3 vaincus par le valeureux guerrier de Qin.
Sire, votre cour clame sa joie. Un guerrier envoyé par le ciel a eu raison des assassins.
Maintenez-vous à 100 pas de sa majesté. Sinon, vous serez exécuté. Ne l'oubliez jamais.
Ces 10 dernières années, nul n'a été autorisé à m'approcher à moins de 100 pas. Sais-tu pourquoi?
Vous préservez des assassins?
Et de leurs sombres desseins. Pour cette raison, je demeure confiné dans cette armure. Tu m'as libéré d'une lourde menace. Je tiens à te récompenser. Que souhaites-tu te voir offrir?
Mon geste venait du cœur, pour servir Qin.
Tout succès doit être honoré, parce que telle est ma volonté.
Sa noble majesté du royaume de Qin a ordonné que soit remis or et terre au vainqueur de ciel étoilé et qu'il soit autorisé à boire avec sa majesté à une distance de 20 pas.
Et c'est là où tout va basculer, Alexis Lavis, en l'autorisant à s'approcher d'une distance de 20 pas, et bien, sans trahir la fin du film, et bien finalement, il s'expose au danger. Mortel.
Mortel, en fait, on peut spoiler un peu quand même le film, parce que...
Oui, de toute façon, c'est l'histoire de la Chine, donc il suffit de lire un livre pour savoir comment ça finit.
Oui, puis bon, ça c'est plutôt une invention, mais c'est intéressant, la fin du film, parce qu'effectivement, donc le... cette espèce de personnage qui a appris toute sa vie à tuer quelqu'un à 20 pas. Donc il a une technique foudroyante. Dès qu'il est à 20 pas, il peut tuer quelqu'un très facilement. Et bah, évidemment, il va se passer ce qui va se passer. Il a le droit d'approcher l'empereur Qin. D'ailleurs, vous savez, l'empereur Qin a été... Han Fei a été un des ministres de l'empereur Qin, avec son condisciple Li Si.
Donc il fut ministre, lui, qui, au contraire,
conseiller plutôt,
que le ministère
conseiller,
était
parce qu'il était
bègue.
Han Fei était bègue, ce qui a été un peu compliqué. Donc il n'a jamais réussi à avoir un poste en vue, mais il a été conseiller, il a été élu par Qin, évidemment. Et d'ailleurs, on entend, d'une certaine manière, cette manière, pourquoi vous vous tenez à 100 pas pour pas qu'on me zigouille. C'est-à-dire, c'est encore le côté très très réel. Donc il n'y a pas cette dimension d'aura qu'il y a dans le confucianisme. Là, c'est vraiment clair, c'est clair net. La limite, c'est la limite où le souverain doit être intouchable, concrètement. Et donc, effectivement, ce tueur réussit à approcher à 20 pas. Peut-être Han Fei aurait dit pas besoin d'approcher à 20 pas, vous pouvez très bien lui offrir des terres et de l'argent, qu'il serait obligé d'accepter. Lorsque le souverain vous donne quelque chose, vous êtes obligé de le prendre. Ne pas le prendre, c'est de la sédition. Donc tout son argument sur le cœur, ça serait un peu malvenu, pas très prudent. Donc il approche à 20 pas, il fait son coup, il arrive à... Et la lame s'arrête à quelques centimètres du cou de l'empereur Qin, celui qui va devenir l'empereur Qin, et il a un moment d'hésitation. Pourquoi? Parce qu'il voit que l'empereur n'est pas un être humain. C'est-à-dire qu'il est, d'une certaine manière, la Chine. À venir. Autrement dit, qu'il est l'espace public. Et c'est là qu'il s'arrête, Et il renonce. Il renonce parce qu'il s'aperçoit qu'il ne tuera pas une personne, mais qu'il va tuer, il le dit même à la fin, la loi.
C'est ça, il y a une coïncidence totale entre le gouvernant et la loi.
Et oui, tout à fait.
C'est pour ça que vous prenez l'exemple d'ailleurs du magistrat, en fait. C'est
oui,
ça.
Évidemment.
Celui qui gouverne incarne la loi, est la loi.
Il est la loi. Mais à condition, évidemment, de que son moi disparaisse. C'est ça, parce que la tyrannie, c'est lorsque le moi mange la loi, d'une certaine manière. La vocation, on pourrait dire, ou le sacerdoce royal, c'est quand la royauté mange, ou la loi mange le moi. Et on voit bien, le roi et le tyran, eh bien, c'est un rapport d'inclusion opposé, entre la loi et le moi. Et c'est d'ailleurs, ce moment dans le film est assez bien fait par Zhang Yimou. Effectivement,
le réalisateur, ouais.
Oui, où il voit précisément, comme je vous dis, comme on reconnaît qu'un banc public est public, eh bien, il reconnaît dans cet être humain quelqu'un qui n'est pas un particulier, mais quelqu'un qui est le représentant de ce qui pourra donner un État unifié au moment où précisément on vit dans les royaumes combattants, où tous les, ouais, ce qui est un moment féodal, on pourrait dire, où tous les royaumes se tapent dessus pour avoir une forme d'hégémonie.
Mais si le roi est celui qui soumet son moi à la loi et non l'inverse, d'où vient la loi ?
Elle vient de... Ça, après, ça dépend des civilisations, si vous voulez. Han Fei est pas crispé sur une origine de la loi. Il dit souvent, il faut écouter le Dao, c'est-à-dire l'ordre naturel, les choses comme elles se passent. Il n'est pas du tout un naturaliste, c'est-à-dire qu'il dit, il est bien de faire comme ça, et évidemment, comme, ça ne veut pas dire que c'est exactement comme. Il est aussi dans un principe de réalité. Les hommes cherchent à être heureux, les hommes ont peur de cela, de ceci, de cela. Il y a aussi des raisons qui sont liées à ce qu'on appelle le maintien d'un bien public, d'une cohérence, d'un être ensemble. C'est ça la loi. C'est les règles qui maintiennent une société donnée dans sa cohésion et qui évitent que les particularités se montent les unes contre les autres. Donc qui privilégient l'être ensemble à l'être individuel. Au fond, c'est ça la loi.
Alors il y a une autre caractéristique du prince, de celui qui gouverne, on la trouve toujours dans le chapitre 4 de l'art de gouverner de Han Fei, qui s'intitule « Conserver le pouvoir ». C'est que le roi ne doit pas simplement être caché, ne doit pas simplement être vide, c'est-à-dire être totalement à l'écoute de ceux qui lui parlent, ne doit pas seulement s'identifier totalement à la loi, il doit aussi nommer les choses comme il convient. Et donc, user de ce pouvoir, finalement, qui est celui qu'on appellerait aujourd'hui de la communication, mais qui va beaucoup plus loin, à savoir avoir le pouvoir même sur les mots qui désignent les choses. Écoutez ce texte.
Une seule voix doit être empruntée. Et elle consiste avant tout pour le souverain à nommer les choses comme il convient. Lorsque les choses sont bien nommées, elles restent en place. Lorsque les noms les qualifiants sont inappropriés, tout s'échappe et périclite. Pour accomplir cette tâche, le sage se repose dans l'unité. Il laisse à la parole même le soin de trouver les noms et d'en circonscrire le sens. Les affaires se règlent alors d'elles-mêmes. Sa tâche suprême est de nommer. Mais lorsque le sens des noms n'est pas clair, il revient aux anciens usages. Les mots ne doivent être ni compliqués ni coupés de la vie quotidienne. Quand ils disent clairement et véritablement ce qu'ils ont à dire, les sujets sont poussés à l'honnêteté et se livrent davantage lorsqu'ils parlent. Soyez vide, calme et demeurez en retrait. Ne vous mettez jamais en avant. Tous les ennuis du souverain viennent du fait qu'il cherche à faire comme tout le monde. Vous pouvez écouter les autres, même leur faire confiance, mais ne cherchez jamais à leur ressembler. C'est ainsi que l'on devient celui que les autres suivent.
Le vocabulaire du Novlang était construit de telle sorte qu'il put fournir une expression exacte et souvent très nuancée aux idées qu'un membre du parti pouvait à juste titre désirer communiquer. Mais il excluait toutes les autres idées et même les possibilités d'y arriver par des méthodes indirectes. L'invention de mots nouveaux, l'élimination surtout des mots indésirables, la suppression dans les mots restants de toute signification secondaire, quelle qu'elle fût, contribuait à ce résultat. En dehors du désir de supprimer les mots dont le sens n'était pas orthodoxe, l'appauvrissement du vocabulaire était considéré comme une fin en soi, et on ne laissait subsister aucun mot dont on pouvait se passer. Le novlangue était destiné, non à étendre, mais à diminuer le domaine de la pensée, et la réduction au minimum du choix des mots aidait indirectement à atteindre ce but. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h31 de Han Feide, l'art de gouverner. Han Feide, c'est pour qui la politique n'est pas un métier, au-dessus même de l'idée de métier, à George Orwell, 1984, les principes du novlangue. On a ici un parallèle assez surprenant, mais qui tient, n'est-ce pas, Alexis Lavis, finalement, si le prince, pour maintenir le pouvoir, doit nommer les choses comme il convient, est-ce que ça ne peut pas conduire à une forme de réinvention du langage qui en fait est l'expression d'un pouvoir subreptice comme dans le novlangue de 1984 ?
Ah oui, mais tout à fait, et je pense que Han Fei aurait souscrit à ce passage, juste à ce passage de 1984, parce que la novlangue c'est plus compliqué. La novlangue, là, dans le passage là, on pourrait dire, bon, il y a un appauvrissement, mais dans un but de clarté, dans un but que les mots désignent exactement ce qu'ils désignent et pas autre chose. Donc là, d'une certaine manière, Han Fei dirait oui, c'est assez juste, cette manière de faire. Néanmoins, chez Orwell, la novlangue est une langue mensongère, est une langue qui ne... Et donc, vous voyez, donc dans le passage que vous avez lu à l'avant, on pourrait se dire, bon, il y a quand même un désir de communiquer sans ambiguïté, ce qui est le but pour Han Fei, parce que précisément, le souverain, c'est pas celui qui parle, c'est celui qui écoute. Donc il faut que les personnes s'expriment, justement, disent ce qu'elles disent et pas jouent sur les mots. Il faut surtout pas jouer sur les mots. Voilà, le problème, c'est que la novlangue est une langue qui masque beaucoup plus qu'elle montre.
Et qui est un instrument de pouvoir, clairement, pour le parti d'en 1984.
Mais la parole est un instrument de pouvoir chez Han Fei et chez les Chinois, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est tout à fait... Je crois que c'est l'une des pensées les plus profondes et les plus originales de ce qui aurait attrait à la pensée politique en Chine, surtout à une époque aussi ancienne, c'est-à-dire la compréhension que tout pouvoir s'inscrit dans une pratique de la communication. Parce que nous, maintenant, on est dedans, si vous voulez, mais... Là, ça a été vu bien avant d'ailleurs Han Fei. On est 6e siècle avant Jésus-Christ. Déjà Confucius dit ça dans un passage des entretiens. Lorsque son disciple lui demande « Que feriez-vous, maître, si l'on vous donnait les rênes du pouvoir ?» Et Confucius répond « La première chose, je vérifierai que les noms disent bien ce qu'ils disent. » Première chose. Pas « Je rétablirai les rites », non. La parole. Comment ça parle? Comment on parle? Et c'était un fait du prince attesté, de baptiser les choses. C'est-à-dire, il disait, bon, ça on va l'appeler comme ça, ça on va l'appeler comme ça, vous allez vous exprimer de cette manière, vous utiliserez ces tournures et pas ces tournures, et ça allait jusqu'à la codification des règles de la musique, des tailles des bâtiments, des vêtements, vous voyez, la normalisation.
Mais dans le texte qu'on a entendu, on trouve cette phrase surprenante et il laisse à la parole même le soin de trouver les noms et d'en circonscrire le sens. C'est la parole elle-même qui nomme, c'est pas lui.
Et c'est là que la novlangue s'arrête, si vous voulez. Parce que, et c'est là qu'il y a beaucoup plus de sagesse chez Han Fei que, on sait très bien que le gouvernement de 1984 ne brille pas par sa sagesse. Peut-être par son efficacité, dire, ouais. Pourquoi? Parce que, il faut se rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure lorsque vous m'aviez interrogé sur la loi. C'est quoi, au fond? Bon, j'ai mal répondu. Quelle est la caractéristique fondamentale de la loi? C'est d'être sans ego. Elle est l'espace public. Elle est l'espace sans particularité, sans moi. C'est pour ça qu'elle peut faire qu'une société d'individus tienne ensemble, puisqu'elle est l'ensemble lui-même. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la langue? Ben, c'est la même chose. La langue, c'est l'espace commun. C'est pour ça qu'on communique. Mmh. La langue, c'est ce qui est d'emblée déségologiquement orienté, mais qui fait... qui n'existent que pour précisément que des individualités transcendent leur individualité. Lorsque j'entends parfois des étudiants dire « Ah, mais c'est ma manière de dire », comme si chacun parlerait comme il veut. Mais c'est absurde. Si les choses étaient comme ça, personne ne se comprendrait. C'est parce que la langue préserve un espace de communauté. Quelle est la loi de l'intelligence commune ?
Conçu comme ça en même temps, ça donne un pouvoir assez tyrannique à la parole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment dire « je » ou « le je » est juste absolument uniforme.
Il faut faire attention. Le pouvoir, quand il est tyrannique, c'est précisément le « je » qui mange.
Ouais, la tyrannie, c'est uniquement quand le « je » est au-dessus de la loi.
C'est quand ou se prend pour, parce qu'il ne peut pas en réalité. C'est pour ça que la tyrannie ne marche pas.
Oui, mais quand la loi, c'est-à-dire la parole, oppresse le « je », on est aussi dans une forme de tyrannie, non ?
La loi,
le jeu n'existe pas.
Le jeu n'existe pas dans l'espace commun. Là, c'est des choses que les Romains avaient bien compris. La division privé-public, c'est pas une division avec laquelle on tranche. C'est pas une division avec laquelle on négocie. Ouais. C'est une division absolue. Et ça veut pas dire évidemment qu'il faut il faut s'amputer soi-même de son goût. Non, il y a de la place pour tout, si vous voulez. Mais lorsque vous êtes dans l'espace public, lorsque vous pensez à la chose commune, évidemment qu'il faut dépasser ces individualités. Tout gouvernant le sait. Tout gouvernant sent le devoir que c'est. Et c'est pas impossible à l'homme, puisque Aristote l'a bien dit, nous sommes des êtres politiques. Ça fait partie de notre être, de ne pas penser que égologiquement.
Oui, mais ce que ça veut dire du coup qu'il n'y a d'usage de la parole, restons sur ce point-là parce qu'il est vraiment intéressant et original, qu'il n'y a d'usage de la parole que politique. Il est écrit dans le texte qu'on a entendu, les mots ne doivent être ni compliqués, ni coupés de la vie quotidienne, quand ils disent clairement et véritablement ce qu'ils ont à dire, les sujets sont poussés à l'honnêteté, se livrent davantage en ce qu'ils parlent, dimension, disons, pragmatique de la parole, qui fait que, du coup, le vivre ensemble est possible. Mais alors, quelle place y a-t-il pour la poésie, pour d'autres formes d'expression qui ne sont pas politiques à travers cette langue aussi formatée pour l'espace commun, enfin qui est l'espace commun en réalité ?
Ah, il n'est pas du tout sûr qu'elle soit si formatée qu'on le pense. Il faut qu'elle parle. Et demander à la parole d'être parlante n'est pas une demande si folle que cela. C'est-à-dire, il faut que le souverain veille à ce que les choses disent, enfin que la parole dise exactement ce qu'elle dit. Par exemple, on voit qu'il y a une richesse. Lorsque on a parlé du métier, on voit que si l'on cherche à définir le métier par les idées plus ou moins vagues qu'on a concernant ce qu'est le métier, c'est pas clair. Par contre, si on regarde ce que dit la langue, ce que dit le latin sur le ministère, ça devient incroyablement plus clair. Et on voit bien que, par exemple, la profession et le métier, c'est pas la même chose.
Quelle est la différence ?
Le métier, c'est s'occuper des petites choses. On pourrait dire, le métier, c'est savoir gérer le business. La profession, ça vient de proférer, c'est-à-dire, c'est ce qui est de notoriété publique. Et là, Anne Faye dirait, oui, le prince, le souverain, c'est une profession. Mais ça n'est pas un métier. Oui. C'est-à-dire, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui doit apparaître publiquement.
Et cette profession, comment s'apprend-elle ? Ou comment se transmet-elle ?
Elle se transmet par une éducation, déjà, au fond, on vient déjà d'en parler, c'est-à-dire, il y a des principes, il faut comprendre sa place, il faut connaître les risques, parce que les risques sont immenses. Là, on n'est pas du tout... Il y a toute une partie du livre qui montre les risques, c'est-à-dire les factions, les partis, il faut se méfier de tout le monde, même de, surtout de ses femmes, de ses concubines et de ses enfants. On dit ça, c'est le pire.
Pourquoi ?
Parce que, évidemment... Par rapport à soi, on a une inclinaison pour eux. On leur préférera toujours la loi. Mais aussi parce que la situation de souverain est tellement jalousée et ces personnes-là sont tellement proches que c'est presque magnétique. Ils veulent vous piquer votre place, même à leur corps défendant. Et donc, il faut se tenir à distance. Il faut mettre entre tout ce qui est l'espace de la loi. Même par rapport à soi.
Mais cette notion de risque permanent, de contingence en fait, qui est sous-jacente à l'espèce de nécessité des traditions qu'on établit, là on retrouve quand même Machiavel, d'être prêt à tout. On trouve dans le livre, vous le dites, il y a une liste des trahisons possibles, il y a les 5 parasites, les 10 fautes, on est toujours dans une espèce d'anticipation permanente du danger qui est là.
Certes, mais qui ne doit pas aboutir, à la différence de Machiavel, à des machiavélismes, c'est-à-dire à des ruses, à des stratégies pour les déjouer. Le prince n'est pas un stratège. Le prince doit juste tenir sa place. S'il la tient, d'une certaine manière, ces dangers n'arriveront pas. C'est un ouvrage qui cherche à déniaiser, on pourrait dire, le prince qui aurait fauté. Mais le prince parfait, c'est-à-dire celui qui serait totalement établi dans la loi, ne risquerait rien à ce niveau-là. Donc, les dangers dont il parle, les fautes que le prince ne doit pas faire, la manière dont il doit se méfier de ses conseillers, de sa famille, tout ça, n'est pas là pour lui permettre d'organiser une forme de stratégie pour mettre pouvoir contre pouvoir ensemble. Non, c'est véritablement pour lui rappeler à chaque fois le danger qu'il existe dès qu'il bouge de sa place.
Quelque chose inquiète-t-il, votre majesté ?
Il se passe des choses. Mais que se passe-t-il, monsieur Johnston ?
Il ne se passe rien.
Silence !
Ici, votre majesté, nous avons été retenus par des étudiants de l'université. Ils manifestaient contre le gouvernement de la République parce qu'il a accepté de céder des territoires chinois au Japon.
Est-il vrai, monsieur Johnston, que beaucoup de gens hors d'ici ont eu la tête coupée ?
Il est vrai, votre majesté. Beaucoup de têtes ont été coupées. Ça les empêche de penser.
Il est temps pour l'empereur de se reposer.
La colère des étudiants, je l'approuve. Je suis en colère. Mais je n'ai pas le droit de quitter la cité interdite. Je veux sortir, monsieur Johnston.
Monseigneur.
Je veux aller voir la cité des bruits.
L'empereur vous élève à la dignité du bouton de chapeau rubis. Et vous autorise à avoir une chaise personnelle, à quatre porteurs.
Alors il est intéressant de voir, Alexis Davis, dans quelle mesure ce texte, L'art de gouverner de Han Feizhe, est atemporel ou est-ce qu'il est vraiment ancré dans une certaine époque. Là, on vient d'entendre un extrait du Dernier Empereur, le film de Bernardo Bertolucci, qui date de 87. Ce Dernier Empereur, qui est un enfant qui monte à 3 ans sur le trône, qui doit avoir à peu près 12 ans au moment de l'extrait. On est au début du XXe siècle, il assiste à la Révolution chinoise, aux révoltes des étudiants de son palais, dont il n'a pas le droit de sortir. Et là, lui-même veut enfreindre le premier conseil qu'on lui donne, qui est à savoir de rester loin de ces sujets. Est-ce parce qu'il est trop jeune ou est-ce parce que les temps ont changé ?
Eh bien, les deux. D'une certaine manière, c'est parce que les temps ont changé qu'il est si jeune aussi. Parce que faire monter un empereur, surtout le dernier empereur qui s'appelle Puyi, en plus est arrivé au trône par des circonstances tout à fait rocambolesques, malsaines. Il n'aurait jamais dû gouverner. Il n'était pas du tout en première ligne pour gouverner. Il se retrouve là malgré lui, et au fond, il a passé sa vie malgré lui, Puyi, on pourrait dire.
Parce qu'il a trôné jusqu'à ses 62 ans, je crois.
Non, il n'a pas du tout trôné. Il a vaguement occupé le pouvoir, qui était un pouvoir d'apparat. Puis quand les Japonais sont arrivés, ont pris la Mandchourie, qui est devenue le Mandchoukuo, il a pactisé avec les Japonais.
Et oui, enfin, il est resté en place, quand même.
Comme un pantin. Il a très mauvaise réputation en Chine, c'est un traître. Et puis après avec le Parti communiste, là il a été en camp de rééducation et puis il a terminé sa vie comme jardinier dans la cité impériale. Ce qui est intéressant, ils ne lui ont pas coupé la tête. Ça m'a toujours étonné. Pourtant, normalement, les Chinois sont assez.
Ça empêche
prestes.
De penser, disait le personnage.
Voilà, ils sont assez prestes, comme on l'a vu, à décapiter. Ou à séparer les corps en deux, mais là, ils ont préservé sa vie, et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a toujours laissé pensif. Si nous n'avions pas tué Louis XVI, oui. Et forcément, on pense à nous. Et c'est très. Imaginez que Louis XVI aurait terminé sa vie comme jardinier des Tuileries. Peut-être la France n'aurait pas le même visage, oui.
Elle ressemblerait à la Chine ?
Non, faut quand même pas aller trop loin. Mais c'est intéressant de. Au fond, c'est peut-être pire que de l'avoir décapiter le souverain, c'est d'une certaine manière l'intensifier dans sa présence de souverain. Parce qu'on n'a pas le choix, il est tellement présent qu'il faut en finir avec lui. Mais terminer comme jardinier dans son propre palais, c'est véritablement la fin du principe monarchique absolu. Et pour repenser à Hanfei, il est terminé jardinier, c'est-à-dire qu'il est dans le plus petit des ministères, il est plus rien. N'ayant pas su être rien, il n'est plus rien. Et ça, c'est le destin étonnant de Pouilly.
Et il a un métier, celui de jardinier, cette fois-ci.
Exactement, il exerce le plus minous des ministères. Et donc c'est l'histoire de Chine est une histoire étonnante, mais avec toutes les histoires des grandes.
Donc cet art de gouverner, dans quelle mesure est-il tributaire d'une certaine période? Il a été écrit dans cette période houleuse de l'histoire de Chine. L'extrait qu'on a entendu, voilà, montre que il est peut-être mis à épreuve avec le changement et de société et d'époque. Pourtant, quand on le lit aujourd'hui, les conseils sont tout à fait de bon sens en fait pour maintenir le pouvoir.
Ah oui, mais c'est pour ça qu'il dure. C'est qu'il y a bien quelque chose qui est vu, et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront et qui ont eu dans leur vie à exercer des responsabilités politiques ou importantes, ça sonnera bien à leur oreille. Ils savent très bien qu'il y a un prix, qu'il faut endosser le costume, et qu'endosser le costume, ça n'est pas que recevoir un cadeau. Endosser un costume comme ça, c'est se vider soi-même de quelque chose. Donc c'est beaucoup plus perdre qu'on croit.
C'est être seul, être caché, oui. Et nommer les choses comme il convient.
Et puis être toujours en proie au risque d'être renversé. Si on fait un pas de travers. Donc on pourrait dire, on est au sommet, mais ça souffle fort au sommet.
Et c'est avec Chou Xuan que nous nous quittons, Alexis Lévis. Merci à vous d'être venu nous parler de Han Fengzhi aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité.
L'art de gouverner, c'est le titre de cet ouvrage de Han Fengzhi, ce petit manuel. On trouve 50 courts textes très utiles, plein de bon sens, mais aussi parfois complètement inapplicables. C'est tout l'intérêt de ce texte. On trouve aux éditions des presses du Châtelet, dans une traduction de vous, Alexis Lévis. C'est un ouvrage donc facilement accessible. 10h48 sur...